Sanier, comment dans les familles, les femmes alors se partagent-elles les tâches? Est-ce que chaque femme, de par les droits qu'elle a de parler ou de ne pas parler, a des tâches particulières à effectuer, du travail particulier à effectuer dans la famille?
Oui, là, s'ils sont deux, par exemple, à la maison, ou bien si la belle-mère, elle est costaud, elle est encore vitale, comme on dit, elle s'occupe plutôt pour préparer à manger et attendre la visite, rester avec eux, discuter, tout ça. Mais les autres travaux à la maison, par exemple, le ménage, faire la lessive, la vaisselle et tout ça, ils partagent s'ils ont deux. Par exemple, une semaine, elle fait le ménage. Donc l'autre semaine, elle fait la lessive, elle aide à sa belle-mère pour préparer à manger et tout ça. Donc il y a un système, il y a une organisation. Depuis au début, comme ça, depuis après le mariage de la jeune mariée. Maintenant, il organise la vie, le travail et tout ça comme il faut faire. Donc, soit ils font 3 jours et puis ils changent le travail, soit ils font une semaine. Donc, s'ils sont nombreuses, ils ont de la chance d'avoir 3 jours ou bien une semaine de congé. Ils font presque rien. Ils s'occupent plutôt de ses enfants et de son mari. Mais ils n'ont pas d'autres obligations. Voilà.
Mais s'il n'y a que deux frères, il n'y a que deux femmes, elles doivent se partager à elles deux seules.
Ils n'ont pas de congé.
Voilà. Est-ce que dans les villes, ce système, on le retrouve ou est-ce que le développement urbain a supprimé complètement cette organisation sociale?
Le développement urbain a cassé la famille albanaise parce qu'on ne peut pas avoir les mêmes maisons en ville. On est dans des appartements la plupart du temps. Donc les gens qui vivent en ville, vraiment en ville et pas dans la banlieue, ont cassé la famille et les couples vivent séparés. Donc ils ne sont plus assujettis à cette famille et donc la noussée, la jeune mariée, n'est plus tributaire de l'autorité de sa belle-mère en fait. Mais en dehors des villes, il y a une partie banlieue, en Kosovo c'est très marqué, où il y a des gens qui essayent de se rapprocher de la ville mais qui recréent complètement le statut du village quand même. On retrouve quand même des maisons complètes et là, alors le même système est encore en vigueur.
La ville principale, ou je ne sais pas si on dit la capitale de la Kosovo, c'est Pristina, c'est une grande ville?
Oui, c'est quand même une grande ville.
Combien d'habitants à peu près? C'est Genève?
1200 000 en tout cas.
Ouais,
150 000.
150 000, oui. Ouais. Mm-hmm. 200 000 environ. Ouais.
Parce que maintenant, il y a un grand exode rural. Alors, c'est très difficile de savoir exactement la population. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent s'ajouter à la circonférence de la ville.
Alors, le texte suivant que nous proposons de vous lire, c'est un texte qui a été écrit par un écrivain, je ne sais pas si je prononce juste, sûrement pas, Gisèle, si vous pouvez regarder, Migjeni.
Voilà.
Et qui est né à, mon Dieu, tous ces noms,
Shkodër.
Il est de religion albanaise et cet écrivain qui a écrit dans les... Qui est de religion orthodoxe. Oui. Et cet écrivain qui a écrit dans les années 30 est en fait un personnage assez particulier puisque déjà à son époque, il n'a cessé de se révolter contre les traditions sociales et notamment bien évidemment celles qui enferment les femmes à la maison dans les conditions que nous avons pour l'instant effleurées. Alors, je vais vous lire un tout petit extrait d'une chronique d'une ville du Nord qu'il a écrit et qui est publiée aux éditions Fayard pour que vous fassiez une idée de à propos de quoi il s'élève. Nash, avec le sourire, essaye de soutirer à sa sœur quelque chose, mais en vain. En ressortant, il croit comprendre la cause de ses larmes. Il se souvient de son regard de la veille. Il est tenté de revenir sur ses pas, mais il n'ignore pas qu'elle se sentira trop gênée pour lui avouer quoi que ce soit. La pudeur, surtout la pudeur des jeunes fiancées, est un maillon de plus dans la chaîne qui entrave la vie de nos filles. Et comment une jeune fille n'aurait-elle pas honte d'évoquer son futur mariage quand elle sait qu'elle ne va chez son mari que pour partager sa couche ? Elle ne peut imaginer aucun autre rapport avec l'homme qu'elle va épouser, puisqu'elle n'a pas échangé un traître mot avec lui. La honte. Comment n'aurait-elle pas honte? Cette honte qui empêche d'élever la voix pour se défendre contre ceux qui s'attachent à faire malgré vous votre bonheur. Je n'en veux pas. Non. Non, jusqu'à présent, jamais ces mots n'ont été prononcés par une fiancée de par chez nous. Nash décide de dire à son père qu'il n'approuve pas le mariage de sa sœur. Le père. Crois-tu qu'on puisse trouver mieux? Pourvu que tes autres sœurs aient la même chance. Il est de bonne famille, riche, travailleur. Il n'y a pas de meilleure partie dans la ville. Mais père, de nos jours, les filles regardent avant tout à quoi ressemble leur futur époux. On ne va tout de même pas lui demander son avis. Est-elle à même de juger? Est-ce vraiment tellement rarissime pour les années 30 de s'opposer à la situation de la femme? Gisèle, comme l'a fait cet écrivain.
Oui, c'était quand même courageux. Parce qu'il s'est quand même opposé à toute une société patriarcale. Il avait lui-même une vie qui était fortement critiquée. Notamment, il était très proche de sa sœur, justement, lui-même. Un peu trop, selon certaines personnes. Mais je veux dire, c'était quand même très très courageux. Parce que les écrivains de cette époque, des années 30, donc, souvent glorifiaient la nation, essayaient de renforcer l'unité du peuple albanais, mais ne se souciaient pas tous, même assez peu, se souciaient de la condition de la femme. C'était un peu le dernier des soucis à l'époque.
Alors ce texte met en scène une des choses que subit très gravement la femme en Kosovo, c'est les mariages arrangés. Puisqu'on dit on a choisi le meilleur parti, mais le meilleur parti est, comme vous le spécifiez tout à l'heure, qui arrange la rencontre d'une famille avec une autre et qui crée les liens entre une famille ou un village, une région et une autre. Alors peut-être est-ce qu'on pourrait parler un petit peu plus de ces mariages arrangés?
Oui. Notre écrivain Mijeni décrit très bien un cas que malheureusement il avait beaucoup, voire on peut dire que tous les mariages se passe ainsi. Nos parents, par exemple, ils se sont mariés dans la même façon. C'est leurs parents qui sont décidés pour son mariage. Alors, aujourd'hui, c'est un peu autre. Bon, moi, personnellement, c'est moi-même que j'ai choisi mon mari.
Donc, est-ce que vous êtes une exception en Kosovo?
Non, parce que, bon, où j'habite, il y a plusieurs qui sont mariés, donc les générations avant moi, qui sont choisies elles-mêmes, son futur époux. Mais malheureusement, il y a encore des cas, surtout dans les campagnes, où les parents ils décident pour son mariage, pour son donc, époux, futur époux.
On peut dire que ces coutumes remontent de nouveau au droit coutumier, le canon de l'Ekdoukadjine, parce qu'on trouve écrit dans le canon « pas de mariage sans intermédiaire ». Et on sait que c'était souvent un parent de la jeune fille, toujours un homme, qui était chargé de la transaction. Observons bien le mot « transaction ».
Donc il y a un avantage économique.
Pas forcément, mais disons, ça peut être une jeune femme peut être prise aussi pour soulager les travaux de la belle-mère. C'est pas forcément économique, ça peut être au niveau du travail. Mais disons, c'est vrai que pendant des années et des siècles, la femme était quand même considérée comme une mineure, donc qu'elle n'avait pas vraiment de droit personnel. Et on pouvait, pas vraiment comme un objet, c'est un peu dur de dire ça, mais il y avait des familles, très dans les montagnes reculées, qui, non pas achetaient, mais faisaient des contrats, plus ou moins, pour prendre une épouse, etc. Mais maintenant, c'est quand même de moins en moins courant, mais dans les villages, je dirais qu'il y a bien 50% des gens, 60% qui se marient encore comme ça.
Et puis, bien évidemment, si la femme essaye de dire « je ne veux pas », comme le texte l'évoquait, elle n'a aucune chance, j'imagine. Que se passe-t-il si une femme essayait de s'opposer à un mariage arrangé?
Bon, si les parents ils veulent pas écouter la fille, de ce qu'elle veut, si elle aime pas son fiancé, alors ce qui arrive, c'est elle est de, comment on dit, plusieurs cas, elle est condamnée, elle est kidnappé par son fiancé, voilà. Mm-hmm. Et puis ça se finit comme ça. Mais les parents, bon, ils ont vu que ça va pas comme ça, pour pas poser des problèmes. Quand même, ils font parler, donc ils font une intermédiaire d'une sœur ou bien d'une cousine. Si elle veut fiancer vraiment, il décide de fiancer avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Donc c'est toujours ou bien sa mère ou bien sa sœur qu'elle doit
parlementer,
voilà. Si elle est d'accord ou pas. Donc si elle n'est pas d'accord, ça arrive très très souvent qu'elle va avec peut-être quelqu'un qu'elle connaissait déjà avant. Elle voulait se marier avant, mais les parents, ils n'étaient pas d'accord. Et puis ça se finit comme ça. Elle quitte la maison, comme on dit.
Voilà.
Mais on parle par exemple, je ne sais pas si c'est surtout propre à l'Albanie et pas forcément à la Kosovo, mais on parle de la vendetta, c'est-à-dire cette façon de régler les comptes au couteau comme dans d'autres régions d'Europe. Est-ce qu'on peut imaginer que, comme il n'y a pas eu respect des promesses entre les familles, dans un cas comme celui-là, tout à coup arrive, on tiendrait pour responsable la femme de bain de sang entre les deux familles parce qu'on va régler ça au couteau?
Oui, mais disons, les vendettas, quand même, apparaissaient rarement pour des questions de fiançailles. Cela pouvait se faire, mais c'était quand même très très rare, puisque la femme était exclue des vendettas. C'est toujours une affaire d'homme. Donc les vendettas arrivent plus souvent pour des crimes ou des choses comme ça, et ensuite ça n'en finit plus, on venge éternellement. Mais il faut bien dire quand même ça, que la femme était exclue des vengeances.
Oui, mais elle pouvait être la cause de la vengeance, non?
Oui, elle pouvait l'être. Notamment si elle trompait son mari, par exemple. Si elle trompait son mari, le canon disait qu'elle devait être condamnée à mort, elle et son amant, surtout si cela s'est déroulé à l'intérieur de la maison familiale.
Voilà, si c'est de l'autre côté du trottoir, c'est pas la même chose. Voilà.
Enfin, il y en avait un des deux, l'amant était tué, mais pas forcément la femme, si ça se passait chez l'amant, par exemple. C'était un droit comme ça.
Mais d'ailleurs, il y a une tradition à ce sujet-là, lors du jour du mariage, en fait, non, Gisèle? Où on glisse dans la robe
alors,
de la mariée.
Oui, bon, c'est une tradition qui est totalement perdue, en tout cas actuellement en Kosovo, tant mieux. Parce que, si une femme trompait son mari, elle devait périr. Et la balle qui devait la tuer, donc dans le canoun, était mise par la famille dans la corbeille de mariage ou dans l'ourlet de la robe de mariée.
Famille de la jeune fille.
Voilà, bien sûr, de la jeune fille, parce que c'était l'autorité paternelle qui donnait le droit au mari de tuer la fille si elle violait, si elle trompait son mari. Voilà.
Mais il s'avère que cette coutume des mariages arrangés, si Gisèle et Sanier viennent le dire, elle existe encore souvent dans les campagnes, en tout cas à 60% des cas. Parfois, cette tradition est respectée dans des conditions assez absurdes, puisque nous allons vous lire un tout court extrait d'un texte qui raconte comment une femme peut mourir du respect ridicule d'une convention passée entre une famille, entre deux familles. Il se fit un silence de mort parmi tous les invités à la noce. Le jour déclinait. La terre était toute blanche et gelée. Des aiguilles de glace pendaient des rebords des vieux toits presque jusqu'au sol. Comment pouvait-on se rendre jusqu'à Tsurtsun, au-delà de trois montagnes? Les visages des jeunes hommes étaient figés et maussades. Le seul signe qui distinguait ce jour de noce d'un jour de deuil, c'était le chant des femmes, chanté par des filets de voix aiguës. Le pauvre père essaya en vain de retenir ses larmes. Ça n'avait vraiment pas l'air d'une noce, mais plutôt d'une mort. Dans la cour, on avait amené les mulets près de l'escalier. Le moment était donc finalement venu. C'était vraiment trop sauvage et absurde. Mais on remuerait plutôt une montagne que de faire changer d'avis ces hommes-là. Là-bas, à Tsurtsun, situé au-delà des trois montagnes, on avait tout préparé pour la noce et la mariée devait absolument s'y rendre. Maxar Sali s'apprêtait à se comporter comme l'exigeait le droit coutumier. emmener la mariée de l'autre côté des trois montagnes. La mariée, Haydée, gisait sur son lit souffrante depuis 3 mois. Cette noce avait été préparée dans une atmosphère fiévreuse. Le bruit courait, comme parvenu des profondeurs de la terre, qu'elle n'aimait pas son fiancé et qu'un jeune homme la courtisait, étant tombé amoureux d'elle. On l'avait relevée de son lit de souffrance et on l'emmènerait, coûte que coûte, où elle devait se rendre. On fit sortir Haydée dans la cour. Le père fit signe de la monter sur la mule. Son visage pâlit encore. Les trois malheureuses qui venaient chanter eurent la voix coupée et pendant quelques moments, dans la cour remplie d'invités de noces, régna un silence funeste, pareil à celui qui accompagne la sortie du cercueil d'une maison. Les frères réussirent à faire monter sur le mulet le corps inerte d'Haydée. « Puissent-ils vieillir ensemble et avoir beaucoup d'enfants ?» dit Machar Sali. Je lui fis signe d'approcher de moi sa tête. « Laisse-la encore une semaine. Tu peux arranger cette affaire avec nos invités. Tu ne vois pas dans quel état elle est ?»« Ne te mêle pas de ça, instituteur. Ces affaires-là s'arrangent par le fusil. Va-t'en. » Ce n'était pas une simple menace d'homme, mais celle d'un monde dédaigneux. Oui, vous auriez plutôt arrêté la terre de tourner sur elle-même que de persuader ces gens à renoncer à ce dont ils avaient été chargés d'exécuter. La caravane des invités à la noce se mit en route sous la neige qui avait commencé à tomber. Ils avaient franchi l'école de la montagne de Balek et dévalaient la côte lorsque Haydée fut sur le point de défaillir. Son frère s'écria « Arrêtez le mulet, elle va mourir !» C'était précisément cet instant-là qu'ils avaient voulu éviter et auquel ils voulaient se dérober. Le frère prit Haydée dans ses bras, la secoua, lui parla, mais elle ne répondit pas. Elle venait de rendre le dernier soupir. Sanié Gisèle, est-ce qu'il arrive souvent qu'une femme meure à cause des droits et des prescriptions absurdes qui peuvent exister dans la société albanaise ou la société de la Kosovo à propos des femmes ? Parce que vous disiez tout à l'heure, elle peut mourir assassinée parce qu'elle a soi-disant trompé son mari, elle peut mourir parce qu'on l'emmène de force dans un mariage. Enfin,
oui, mais enfin, il ne faut pas exagérer quand même. Parce qu'actuellement, cette nouvelle donc là, qui se passe au début du siècle.
Écrit par Vat Koresio, oui. Peut-être le préciser, on ne l'a pas dit tout à l'heure.
Oui, ce n'est plus du tout actuel, disons, ce n'est plus possible actuellement. Non, actuellement, la seule chose dont une femme peut mourir, c'est à la naissance d'un enfant, ce qui est encore le cas assez couramment quand même au Kosovo par rapport à nos pays.
Mais pourquoi ? Parce que les conditions de santé sont si mauvaises que ça, qu'elles ne
permettent
pas.
Actuellement, il faut dire une chose, que vu la répression qu'il y a au niveau des hôpitaux, il n'y a plus rien, il n'y a plus que des médecins serbes. Donc les femmes n'osent même plus aller accoucher à l'hôpital. À la maternité, une des plus grandes maternités de Kosovo, où on recevait d'habitude 400 patientes pour les accouchements, il n'y en a plus que 4 ou 5 actuellement. Donc elles accouchent à la maison. Il y a un retour donc des accouchements à la maison avec la répression. Donc évidemment, à la maison, quand on est loin de tout, il n'y a pas de téléphone. Dans les maisons de campagne, il y a très rarement le téléphone. En plus, les gens n'ont pas toujours de voiture, ils n'ont qu'un tracteur la plupart du temps. S'il arrive quelque chose, une hémorragie, il est évident que depuis les derniers mois de répression, les morts en cas d'accouchement doivent être beaucoup plus nombreuses.
Alors nous allons y venir. Oh, excusez-moi.
Je voulais dire un cas que ça lui est arrivé la première semaine après l'occupation de l'hôpital. Donc toutes les femmes, ils ont quitté l'hôpital, ils n'ont plus eu la confiance au docteur, au médecin serbe. Alors la première semaine, elle était morte, une maman de 6 enfants, qu'elle était couchée à la maison, accouchée à la maison. Et c'était triste. Donc, ça arrive maintenant, ces derniers jours, assez souvent, mais on parle tellement que... Et puis on ne fait rien.
Voilà.
Alors peut-être juste avant de effectivement parler de ce qui se passe aujourd'hui, parce que c'est évidemment une urgence, on pourrait peut-être juste conclure sur cette partie littéraire en évoquant le comment se fait-il qu'on a passé comme ça, on a pu conserver un certain nombre de ces traditions encore vivantes aujourd'hui. Parce que malgré tout, la Yougoslavie est un pays qui a soi-disant choisi le socialisme, qui implique en tout cas des notions d'égalité, par exemple. Comment se fait-il que le gouvernement ne se soit pas plus battu pour l'égalité des hommes et des femmes? Et si jamais il l'a fait, quel obstacle y a-t-il à la non-réalisation de cette avance de l'égalité entre les hommes et les femmes, ne serait-ce que du respect des personnes?
En Yougoslavie, le gouvernement au niveau de la Kosovo ne s'est jamais battu pour l'égalité des hommes et des femmes. La loi, les lois figuraient, dans la loi il y avait l'égalité. Mais le gouvernement yougoslave savait très bien qu'elle n'existait pas dans les faits. Mais il a toujours tenu à maintenir le peuple albanais dans une espèce d'arriération sociale, économique et même culturelle à une certaine époque et encore maintenant. Surtout maintenant où on enlève les droits culturels des Albanais. Donc, à la limite, ça arrangeait un petit peu, même certainement, le gouvernement serbe, cette arriération. Parce qu'on pouvait montrer du doigt les Albanais. On avait des choses à leur reprocher. Ça arrangeait tout le monde. Et on a rien fait concrètement pour faire évoluer cette situation favorablement en Yougoslavie.
Est-ce que la Kosovo est la seule province musulmane de la Yougoslavie et la seule république?
Non, il y a la Bosnie-Herzégovine qui contient énormément de musulmans aussi. Mais ces musulmans sont d'origine ou bien serbe ou bien croate. Et actuellement, on les a regroupés sous une nationalité totalement artificielle, nationalité musulmane, ce qui ne veut absolument rien dire. C'est bien clair.
Mais est-ce que ce statut de la femme en Kosovo est propre à la Kosovo ou est-ce qu'on le retrouve dans d'autres régions de Yougoslavie, par exemple?
Non, il n'est pas propre à la Kosovo. On pense souvent qu'il est plutôt propre en fait, à la région méditerranéenne. Il faut dire les choses comme elles sont. Et si vous allez en Serbie, il est vrai que dans les campagnes, les femmes aussi travaillent énormément. Sont exploitées aussi en Serbie. Pas dans les villes, évidemment. Je veux dire, c'est une chose quand même qui est commune au territoire méditerranéen. Parce que si vous allez en Grèce, c'est aussi le même phénomène. Même en Italie du Sud ou en Sicile. Donc il ne faut pas du tout croire que c'est quelque chose qui est particulier à la Kosovo ou aux Albanais. Ce serait tout à fait faux.
Est-ce que la configuration de la Kosovo, qui est une région, et de l'Albanie, qui sont des régions assez montagneuses ou avec des vallées un peu isolées, a aussi contribué à maintenir aussi peut-être ces traditions parce qu'il y avait moins d'échanges avec la ville, par exemple?
Oui, ça c'est certain. Ça c'est très visible pour l'Albanie, notamment. L'Albanie du Sud et l'Albanie côtière, qui étaient en contact avec l'Italie et avec d'autres pays plus développés, étaient nettement plus larges au niveau des mœurs et puis de la libération de la femme. Alors que l'Albanie du Nord, avec les montagnes, était restée beaucoup plus proche de son coutumier, justement. Et était restée beaucoup plus en arriération par rapport à la société, la formation sociale et au niveau de la femme, justement.
Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que la Kosovo se batte pour obtenir la reconnaissance de son autonomie et de son existence aussi contribue au maintien de ses traditions, dans la mesure où c'est quelque part une façon de garder son identité culturelle que de maintenir ses traditions face à la Serbie, par exemple, ou à la Yougoslavie?
Ça a été ça au début du siècle, et notamment plus fortement en Macédoine, où les Albanais étaient très musulmans et la population macédonienne orthodoxe. Et on a voulu maintenir justement la différence très fortement, parce que pour ne pas se faire assimiler, la religion servait un peu de frein à l'assimilation. Mais actuellement, il n'y a pas du tout cette volonté dans la population jeune albanaise. Il y a une volonté de démocratisation, d'ouverture et d'égalité, ça c'est certain, notamment au niveau des intellectuels.
Alors c'est ce que nous allons découvrir dans 5 minutes, histoire de tourner notre page de cassette comme nous le faisons chaque fois et puis d'écouter encore une de ces merveilleuses chansons de musique de chanteuses albanaises. Et tout à l'heure nous évoquerons la dure réalité de la Kosovo aujourd'hui dans son combat contre la Serbie.